Chapitre 3. Quand M. et Mme Ettlinger arrivèrent à Paris, ils se firent conduire à l'hôtel des grands hommes. Annie ne songeait jamais au séjour qu'elle y avait fait sans se représenter l'amour sous un aspect romanesque. En sortant de la gare, il avait pourtant été dans son intention de se rendre directement avec son mari avenue de Malakoff. Cette adresse, elle l'avait même donnée à un chauffeur de taxi. Ce n'avait été qu'en cours de route que son projet d'imposer Jean Melchior au moment où on allait enterrer Bertrand lui avait paru irréalisable et qu'elle avait compris qu'il valait mieux attendre quelques jours de manière à préparer M. Villemur à cette rencontre. Ce ne fut donc après avoir accompagné son mari à l'hôtel qu'elle alla retrouver sa famille. Si quelqu'un se réjouissait de ce revirement, c'était M. Ettlinger. Il n'était pas fâché que son entrevue avec les Villemur fût remise, quoiqu'à tout prendre, il eût mieux aimé se rendre directement avenue de Malakoff, ce qui était naturel, que d'attendre le moment que choisirait Annie, ce qui aurait quelque chose de prémédité. Comment sa femme ne se rendait-elle pas compte de ce que son désir d'introduire Jean Melchior chez les siens à la faveur d'un événement aussi douloureux que la mort de Bertrand avait de maladroit? Comment s'imaginait-elle que ses parents croiraient aux raisons qu'elle voulait que son mari donnât de sa présence à Paris et dont la plus invraisemblable était qu'il avait été tellement frappé par la mort de Bertrand qu'il avait absolument voulu dire de vive voix au Villemur combien grande était sa peine? Pour ne pas contrarier Annie et malgré la gêne qu'il éprouvait, apparaître à un moment où vraiment on avait autre chose à faire que de se réconcilier avec lui, il avait accepté. Mais qu'allaient penser les Villemur d'un homme qui surgirait comme d'une cachette alors que personne ne songeait à lui? Le lendemain, quand Annie le rejoignit, il lui fit part de ses craintes. Elle n'en tint aucun compte. La veille, elle avait fait plusieurs allusions sur son mari. Il était à Paris. La mort de Bertrand l'avait bouleversé. Par discrétion, il ne voulait pas se montrer. Dans les jours qui suivirent, elle continua à préparer son père à la visite de Jean Melchior. Au bout d'une semaine, M. Villemur comprit enfin où voulait en venir sa fille. Il lui parut alors qu'elle n'avait plus cette délicatesse qu'il avait tant admirée chez elle quand elle était jeune fille. Ce changement n'était-il pas causé par l'homme dont elle était tombée amoureuse et pour lequel, encore aujourd'hui, elle ne craignait pas de froisser sa famille? Aussi, quand Annie jugea le moment venu de tirer son mari de l'ombre, eut-elle la surprise de voir que l'accueil qu'on lui fit ne fut pas meilleur que celui qu'on lui avait fait 10 ans auparavant. À la suite de cette tentative de conciliation, il y eut, pour la première fois depuis leur mariage, un certain malaise entre Annie et Jean Melchior. Celui-ci, qui, jusqu'à ce jour, n'avait voulu revoir aucun de ses anciens amis, ni même son frère, parce qu'il avait senti que cela déplairait à sa femme, au lieu d'errer dans Paris, alla renouer quelques anciennes amitiés. Il revit son frère Martin, qui avait, paraît-il, brillamment réussi. Il le trouva installé au premier étage d'un immeuble modeste de la rue Claude Bernard, dans un appartement donnant sur une cour. Comme M. Ettlinger, c'est-à-dire pour des raisons de santé, il n'avait pas été mobilisé. Catherine, dont le mari était au front et qui, depuis le début de la guerre, était revenue habiter chez son frère, où elle faisait l'office de secrétaire, manifesta une grande joie à la vue de Jean Melchior. Elle meurt d'inquiétude, tu devrais lui offrir l'hospitalité. Le changement, le soleil, remonterait son moral, dit Martin, profitant de ce que sa sœur s'était absentée. « Je ne demande qu'à lui faire plaisir, » répondit M. Ettlinger. Pendant ce temps, Jean-Noël était l'objet d'une surveillance spéciale de la part de M. Stevenson. Celle-ci n'avait pas été recommandée au professeur. Il se croyait tenu à préserver ses autres pensionnaires d'une contamination possible. Quant à Ernestine Mercier, elle avait été avertie par un de ses nombreux amis de la mort de Bertrand et du départ de M. et Mme Ettlinger. Ces deux événements, qui ne la regardaient pas, l'agitèrent beaucoup, tout ce qui se passait à Nice étant à ses yeux d'une importance capitale. Elle était impatiente d'agir, de signaler son existence, comme si, en une telle circonstance, on risquait de l'oublier. L'idée lui vint alors de rendre visite à son fils. Elle demanda à un certain monsieur Grimal, qui, en dehors des leçons qu'il donnait dans une école privée, s'occupait un peu de l'éducation d'Émile, ce qu'il pensait de son intention. Monsieur Grimal répondit évasivement. La raison principale de son amitié pour Madame Mercier était la situation très particulière de celle-ci. S'il la traitait en personne injustement frappée par des gens puissants, il n'en espérait pas moins qu'un jour il aurait l'occasion d'approcher ces gens. Aussi veillait-il à ne pas se compromettre, de manière que plus tard, s'il était appelé par exemple à témoigner ou à arbitrer un conflit quelconque, on ne pût lui reprocher cette amitié. N'y tenant plus, Ernestine Mercier se rendit un matin à la pension de M. Stevenson, non en mère abandonnée, mais en femme qui, si elle a refait sa vie, n'en a pas moins gardé une profonde tendresse pour le fils dont elle a été forcée de se séparer. Elle parla avec beaucoup d'affection, insinua qu'elle était d'une aussi bonne famille que celle qui lui avait ravi son mari et son enfant. Elle eut même cette parole énigmatique « Le jour est proche où vous aurez une grande surprise. » dont M. Stevenson, par politesse, feignit de percer le sens. Elle demanda ensuite à voir son cher enfant, et lorsque celui-ci lui fut amené, elle le regarda longuement, les lèvres serrées. Puis, comme si on pouvait tout admettre d'une femme se trouvant dans sa situation, elle versa quelques larmes, se cacha le visage dans ses mains, demanda un verre d'eau. Jean-Noël avait assisté à cette scène, plutôt qu'il n'y avait pris part, écarlate de confusion. Le lendemain, il n'osa lever les yeux sur son professeur. Jamais il n'avait éprouvé une telle honte. Son seul désir était de quitter cette pension, où, lui semblait-il, on ne le regardait plus qu'avec mépris. Aussi, quand son père fut de retour à Nice, la première chose qu'il lui demanda fut-elle de rentrer avenue Félix Faure. Surpris, M. Ettlinger chercha à savoir ce qui s'était passé. Comme Jean-Noël refusait de parler, il interrogea M. Stevenson. « Il ne s'est rien passé de particulier, » répondit le professeur, qui considérait l'existence de Madame Mercier comme un secret dont il n'eût pas dû être détenteur. Quelques jours plus tard, Jean Melchior apprit cependant de son fils ce qui était arrivé. L'attitude de M. Stevenson lui revint à l'esprit. Annie avait justement téléphoné au professeur pour l'inviter à prendre le thé. « Je ne veux plus le recevoir, » dit M. Ettlinger à sa femme. Comme elle montrait de l'étonnement, comme surtout il ne voulait pas donner la raison de cette volonté, il lui dit qu'il courait des bruits fâcheux, qu'il se garda bien de préciser, sur M. Stevenson. Annie avait une foi aveugle dans les jugements de son mari. Malgré l'amitié que M. Stevenson lui inspirait, elle sourit. « Le monde est étrange, n'est-ce pas ? » dit-elle. « Chaque jour, on apprend une vilenie. » Quand M. Stevenson s'aperçut de la froideur que lui témoignait Mme Ettlinger, il crut qu'elle provenait de ce qu'il avait reçu, bien malgré lui, Ernestine Mercier. Il se souvint d'une parole que celle-ci avait prononcée. « Monsieur Grimal, que vous connaissez bien, je crois, m'a dit que vous étiez un homme charmant. Je constate qu'il ne m'a pas menti. » La mauvaise humeur du professeur se porta sur M. Grimal. Par un tiers, celui-ci la prit. S'il n'avait pas pour son collègue, qui, quoique étranger, gagnait plus d'argent que lui, une bien grande sympathie, il ne tenait pas à se mettre en mauvais termes avec lui. Il lui écrivit une longue lettre dans laquelle, sur le ton hautain que l'on prend pour parler de choses désagréables auxquelles on a été mêlé malgré soi, il lui parla de Madame Mercier, des relations épisodiques qu'il avait avec elle. Au grand jamais, il ne lui avait conseillé la démarche qu'elle avait faite. Il assura finalement M. Stevenson de ses sentiments distingués et cordiaux et de son dévouement sincère. Faisant un tour complet, l'histoire revint à celle qu'il avait provoquée. Quand Ernestine Mercier s'aperçut en outre que M. Grimal l'évitait, elle ne douta plus que Jean Melchior n'eût manœuvré contre elle. Elle l'accusa d'avoir reproché à M. Stevenson de l'avoir reçu en homme du monde qu'il était. Par retour de courrier, M. Ettlinger lui répondit qu'elle se trompait, qu'il n'avait même jamais prononcé son nom en présence de M. Stevenson. Elle courut montrer cette lettre à M. Grimal, qui, excédé, se débarrassa d'elle aussi vite qu'il le put. Sur ces entrefaites, justement, Catherine arriva à Nice. Jean Melchior l'avait attendue à la gare, bien que les trains eussent parfois plusieurs heures de retard, afin qu'elle ne se présentât pas avenue Félix-Faure. Depuis son retour, Annie était très abattue. Quoiqu'elle ne se l'avouât pas, elle avait beaucoup compté sur son dernier séjour à Paris pour faire admettre son mari dans sa famille. Elle avait même envisagé qu'à la fin de la guerre, peut-être même avant, Jean Melchior et elle retourneraient à Paris pour y rester définitivement. Or, non seulement ses espoirs s'étaient montrés irréalisables, mais des rapports nouveaux, froids, corrects, s'étaient établis entre sa famille et elle. Annie avait alors été frappée par ce que le destin a d'étrange et d'inattendu. Elle avait toujours affirmé qu'il n'y aurait place entre ses parents et elle que pour un amour parfait, et à présent, sans qu'elle sût comment cela s'était fait, elle échangeait avec les siens une correspondance de cousins éloignés. Ça avait donc été sans le dire à Annie que M. Ettlinger avait été chercher sa sœur et que, sous le prétexte qu'il n'avait pas de domestique, il avait envoyé à Menton, nanti d'une lettre pour Ernestine. En rentrant, il se félicita de n'avoir pas suivi l'idée qu'il avait eue un instant lorsque sa sœur était descendue du train de l'héberger. Il trouva Annie de très mauvaise humeur. « Il faut absolument prendre une décision, » lui dit-elle. Puis elle parla de faire des portraits, de gagner ainsi de quoi subvenir aux frais de la maison. Les quelques revenus qu'elle touchait encore pourraient alors leur servir d'argent qu'elle appelait de poche, mais dont l'utilisation dépassait ce que l'on entend ordinairement par cette expression, puisqu'elle s'étendait à tout ce qui n'était pas, comme elle disait, le ménage. Un après-midi, comme elle se rendait à son atelier situé dans la vieille ville, son attention fut attirée par un écriteau pendu à la porte d'une maison délabrée. Un logement était alloué. Brusquement, sans réfléchir, elle entra dans cette maison, chercha le propriétaire. Un homme de 60 ans, courbé sur une canne, s'avança vers elle. Il était vêtu d'un costume de velours à côtes et portait un chapeau noir à large bord. Une barbe blanche lui donnait l'apparence d'un modèle. Cet homme qu'elle n'avait jamais vu, avec lequel elle ne pouvait avoir aucun point commun, lui fit pourtant une grande impression. « Je viens de lire, lui dit-elle respectueusement, l'écriteau que vous avez fait accrocher à la porte de votre maison. » Il conduisit Annie dans une sorte d'atelier de menuiserie où 5 ou 6 chats dormaient les uns à côté des autres. Elle lui fit part de son désir de louer un appartement plus petit que celui qu'elle habitait. La guerre se prolongeait, elle craignait d'être ruinée, elle estimait qu'elle devait réduire son train de vie. Flatté et surpris par ses confidences, le propriétaire l'encouragea dans cette voie, et elle le quitta, presque joyeuse, sur la promesse qu'il allait lui établir un bail. Lorsqu'elle raconta à son mari qu'elle projetait de louer un logement dans la vieille ville, il ne partagea pas son enthousiasme. Il lui dit qu'elle s'exagérait ses craintes, que la guerre était sur le point de finir, que tout s'arrangerait, si bien qu'Annie rassurée ne se rendit pas au rendez-vous que lui avait donné le propriétaire. Il vint la trouver. Il n'en fallut pas davantage pour faire renaître l'inquiétude d'Annie. Elle signa le bail. À partir de ce jour, elle se sentit mieux. Cette paix fut pourtant de courte durée. Une semaine plus tard, Catherine sonnait à l'appartement de l'avenue Félix-Faure. Quand elle s'était présentée avec la lettre de son frère chez Madame Mercier, celle-ci s'était écriée « C'est un comble !» Comment, après ce qui s'était passé, Jean Melchior avait-il eu le front de lui demander un service ? Elle n'avait pourtant pas osé renvoyer Catherine. Elle s'était contentée de la recevoir comme quelqu'un que seules les circonstances ont empêché de prendre position contre nous. Catherine, glacée par cet accueil, avait eu la maladresse de ne pas écouter les doléances d'Ernestine. Dès le lendemain, celle-ci s'était emportée au moindre prétexte. La vie étant devenue insupportable, Catherine était retournée à Nice. Annie, contrairement à ce qu'on eût pu supposer, reçut aimablement la sœur de son mari. Mais quand elle apprit que ce n'était pas d'elle-même que celle-ci était venue à Nice, que c'était Jean Melchior qui l'avait invitée, sans dire un mot, elle alla s'enfermer dans sa chambre. M. Ettlinger voulut l'y rejoindre. La porte était fermée de l'intérieur. Il frappa à différentes reprises. Finalement, Annie lui ouvrit. Ses paupières et le cerne de ses yeux étaient gonflés, mais secs. Ce n'était que vers les pommettes qu'apparaissaient des traces humides, trahissant qu'elle avait pleuré. « Il faut qu'elle reste !» dit-elle avant que son mari eût le temps de prononcer une parole. Elle avait eu des remords. Elle regrettait de s'être abandonnée à un mouvement d'humeur. Cette jeune femme n'avait-elle pas ses soucis? Son mari n'était-il pas au front? « Oublie, ajouta-t-elle, ce que j'ai dit !» Après le dîner, tendre, changée, elle proposa à Jean Melchior de sortir. La soirée était chaude. Un vent tiède venait de la mer, agitant doucement les palmiers qui, aux lumières des réverbères et des voitures, semblaient appartenir à un décor. Jean Melchior avait pris le bras d'Annie et, en marchant, il le serrait contre lui. Bien que leurs hanches se touchassent, elle le précédait comme toujours, le regard fixé devant elle. Ils longèrent la promenade des Anglais, traversèrent la place Masséna, s'engagèrent dans l'avenue de la gare. Il n'était pas tard. Devant le petit Niçois, un attroupement lisait le communiqué. Ils s'assirent, comme ils aimaient à le faire, à la terrasse d'un grand café. Soudain, Annie dit « Je devrais lui téléphoner. » « À qui ?» demanda Jean Melchior. Elle ne répondit pas. Il comprit alors qu'il s'agissait de ce fameux monsieur Duncan dont elle parlait depuis des mois et qui, prétendait-elle, était prêt à lui offrir une fortune si elle consentait à faire son portrait. « Tu ne t'es donc pas aperçu que ce monsieur Duncan fait des promesses mirifiques à tout le monde, justement parce qu'il est d'une avarice sordide. » Annie fut alors frappée par la pâleur de son mari. Au lieu de lui répondre, comme elle en avait le désir, qu'il se trompait, elle le regarda longuement, avec inquiétude. À ce moment, un maître d'hôtel s'approcha de M. et Mme Ettinger. C'était un Suédois, grand, jeune, aux yeux bleus, aux jointures maxillaires inégalement saillantes. Annie, qui aimait à découvrir de la distinction là où personne ne la cherchait, serra la main de Jean Melchior. Il leva les yeux, fut confondu à son tour par la beauté du maître d'hôtel. « Quel âge avez-vous ? » lui demanda-t-il. Pendant plusieurs minutes, il lui posa toutes sortes de questions, cependant qu'Annie l'écoutait, amusée. Puis il tint à savoir s'il avait des enfants. Le maître d'hôtel lui répondit qu'il avait une petite fille. M. Ettinger vanta alors les joies que donnent les enfants, si bien que le beau garçon, après une minute passée à s'assurer que son interlocuteur ne se moquait pas de lui, se joignit à cet éloge de la paternité. En quittant le café, Annie se mit à rire. « Pourquoi ris-tu ? » lui demanda son mari, qui savait très bien qu'elle riait de la manie qu'il avait de chercher des sentiments paternels chez les hommes semblant le moins capable d'en avoir.